C'est la première fois qu'on m'applaudit avant de m'entendre, de m'écouter. Ça doit être ça la gloire, peut-être, je me demande. Bon dia a tutom, buenos dias a todos, bonjour à tous. Je suis très flatté d'avoir été invité par Diffusion pour faire cette conférence inaugurale. Et je remercie aussi l'ambassade de France pour son soutien et l'Institut culturel pour un accueil dans des locaux splendides, un très bel amphithéâtre. Voilà. Alors, vous avez le titre sous les yeux, vous l'aviez déjà dans votre programme. Vous avez mon courrier électronique, je réponds à tous les messages, parfois en disant que je ne peux pas répondre, mais je réponds quand même. Et puis, en dessous, vous avez le site de mon association. Il se trouve que je suis actuellement le directeur éditorial de ce site, de l'APLV, aplv-langue-moderne.org, en un seul mot. Et si je vous le cite, c'est pas seulement pour faire ma propre publicité pour ma propre association, c'est aussi parce que sur ce site, vous trouvez depuis déjà 5 ou 6 ans tous les articles que j'écris. Lorsqu'on me demande d'écrire un article pour une revue, maintenant je négocie la parution simultanée sur le site de mon association. Voilà, donc sur ce site-là, si vous tapez Puren dans le moteur de recherche, vous allez avoir, j'allais dire, mes œuvres complètes. Non, encore que j'ai mis mon histoire des méthodologies, y est en consultation et en téléchargement libre. Et il y a quelques jours, je viens d'y mettre aussi mon essai sur l'éclectisme, dont j'ai récupéré entièrement les droits. Donc vous pouvez le télécharger et l'imprimer tout à fait librement. Voilà, et puis si Dieu me prête vie, comme on dit, peut-être que dans les années qui viennent, ce seront mes autres ouvrages dont je récupérerai les droits et que je mettrai donc sur ce site. Alors, peut-être que cette expression de compétence informationnelle en aura surpris quelques-uns, mais c'est une expression qui est devenue maintenant relativement courante. Vous connaissez peut-être le concept de veille informationnelle. Le concept de compétence informationnelle est très utilisé depuis déjà des années par les spécialistes de la gestion de l'information, c'est-à-dire les documentalistes. Et je pense que si, à la suite de ma conférence, vous aurez peut-être l'idée de dire il faudrait peut-être des systèmes d'évaluation de la compétence informationnelle, ben on a déjà les grilles d'évaluation proposées par les collègues documentalistes de l'Éducation nationale. Ces grilles sont très intéressantes. Et il y a déjà tout un travail préalable qui est fait. On n'aura pas, pour une fois, à réinventer la poudre et le fil à couper le beurre, comme on dit chez moi en Bretagne, parce qu'on aime bien, le beurre. Voilà. Je passe. Excusez-moi, on y va. Alors, les contenus de cette conférence, je pense qu'elle est enregistrée déjà, mais les contenus de cette conférence, en fait, correspondent à un article que je suis en train de terminer. J'ai quelques problèmes pour le terminer, ça doit faire quelques mois que ça dure. Et voilà le titre, en fait, le titre exact, qui est un peu plus long que le titre de ma conférence, parce qu'en fait, le titre de ma conférence, « De la compétence communicative à la compétence informationnelle », ça pose immédiatement la question, mais non seulement qu'est-ce que c'est la compétence informationnelle, on y reviendra, mais aussi pourquoi il faudrait passer de l'une à l'autre. Et si l'on doit passer de l'une à l'autre, c'est parce que justement, à mon avis, le nouvel objectif fixé à l'enseignement des langues, qui est la formation d'un acteur social, implique forcément que l'on s'interroge sur les implications de cette nouvelle réorientation. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur social responsable vis-à-vis de l'information? Eh ben, on verra que ça commence surtout pas par communiquer, mais déjà par, on verra par quoi. Il y a toute une chaîne d'activités pré-communicatives en amont de la communication. Par exemple, évaluer l'information. Ben, un acteur social responsable ne communique pas sans évaluer auparavant l'information. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que c'est celle qu'il convient à mon interlocuteur ou non? Et puis, un acteur social responsable vis-à-vis de l'information doit aussi assurer une sorte de service après-vente de la communication. Est-ce que la communication que j'ai transmise non seulement a été comprise, mais est-ce qu'elle a servi effectivement à l'action de l'autre? Ou est-ce qu'elle va servir à l'action commune? Voilà, très rapidement, on pourrait presque s'arrêter là, parce que la suite, ça se complète presque naturellement. Alors, je parle ici de la perspective de l'agir social. J'ai parlé aussi de perspective coactionnelle à un certain moment. Je ne renie pas du tout ce mot, parce que coactionnel, co-culturel, ça permet de faire, d'installer un décalage sémantique, enfin, terminologique et donc sémantique entre interculturel et co-culturel, interaction langagière et coaction, non seulement langagière, mais non langagière, comme le dit le cadre aussi. Je parle maintenant de la perspective de l'agir social, tout simplement parce que la perspective actionnelle du Conseil de l'Europe, de Didier 2001, cette perspective actionnelle, moi je vous propose de prendre ce concept dans un sens plus abstrait, et j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a toujours eu, par définition, à tous les moments où est apparue une cohérence méthodologique et didactique globale, il y a toujours eu une perspective actionnelle par derrière, dans un sens très abstrait. Et ce qui permet, la définition abstraite de perspective actionnelle permet de voir quelle est la spécificité, quelle est l'originalité de la nouvelle perspective actionnelle. Mais ça, j'y reviendrai donc tout à l'heure. N'essayez pas de taper 1841 dans le site APLV Langue Moderne, parce que vous voyez, il doit paraître en décembre 2008. J'espère l'avoir terminé d'ici là. Alors, quand on est dans une église, on parle forcément de la Bible à un certain moment. Donc voilà, le cadre européen commun de référence. Vous connaissez ce passage par cœur, je suppose, parce que dans le cadre européen, il y a quatre occurrences, deux occurrences de perspective actionnelle et deux occurrences d'approche actionnelle, empate, comme on dit en espagnol. Voilà, donc on peut choisir effectivement perspective actionnelle ou approche actionnelle. C'est plutôt le concept d'approche actionnelle qui s'est généralisé, sans doute en raison du fait que le seul passage du cadre européen où il y a une ébauche, c'est tout, hein, une ébauche de description de ce que serait cette nouvelle orientation, c'est ça. Il n'y a pas d'autre ligne que ça. L'autre occurrence de perspective actionnelle, c'est au passage. Les deux occurrences d'approche actionnelle, c'est au passage. C'est le seul texte que nous ayons en termes de qu'est-ce que c'est cette nouvelle orientation de l'enseignement des langues, qui se fixe comme objectif non plus la formation d'un communicateur en société, mais la formation d'un acteur en société. C'est tout. C'est très bien. Ça nous permet au moins de construire nous-mêmes ce qu'il y a par derrière, sans être dépendant des experts. Moi, ça me convient tout à fait. Alors, vous avez ici l'objectif donc de former des apprenants comme des acteurs sociaux. Donc le nouvel objectif est bien indiqué. Et ensuite, il y a un décalage très net entre l'acte de parole et l'action sociale. C'est la fin du texte. D'accord ? Ceci-là, si les actes de parole se réalisent, en français, je demande qu'un natif ici lève le doigt pour me dire qu'il n'est pas d'accord avec moi, c'est clairement un si concessif. En anglais, dans le texte original, c'est while, c'est aussi l'équivalent d'une concession. Et j'attire votre attention, les hispanistes ou hispanophones de service ici, que la traduction de l'institut Cervantes neutralise complètement cette opposition. Je ne me souviens plus de la traduction espagnole, mais vous pouvez vous y référer. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est le seul moment où implicitement, explicitement, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas exactement, il y a une prise de distance très nette entre l'approche communicative d'un côté et cette nouvelle orientation perspective actionnelle de l'autre. C'est un si concessif. Le si est très clairement concessif puisqu'il y a un décalage très explicite là qui est indiqué entre l'agir de référence de l'approche communicative, c'est un agir sur l'autre à l'intérieur d'une action de communication. Voilà comment on peut définir l'agir de référence de la perspective actionnelle. Un agir sur l'autre, l'acte de parole, c'est un agir sur l'autre par la langue. Hein, vous connaissez la définition standard de l'acte de parole, dans le cadre d'un acte global qui est un acte de communication. Et ici, nous sommes dans une action en contexte social. Donc il y a un élargissement de la notion d'agir et un décalage très net entre les deux agirs de référence. Ou alors qu'on m'explique et qu'on me justifie le contraire. L'agir de référence de l'approche actionnelle, de la perspective actionnelle du Conseil de l'Europe, cet agir de référence, c'est un agir socialement et professionnellement en langue étrangère. L'agir socialement en langue étrangère est lié à l'une des nouvelles situations sociales de référence qui est annoncée dans le cadre. La situation sociale de référence de l'approche communicative, c'est la rencontre ponctuelle, initiale et ponctuelle avec des étrangers. Hein, si vous relisez les préfaces des nouveaux cadres, si vous relisez les préfaces des niveaux seuils, la situation sociale de référence à laquelle on est supposé préparer les élèves, c'est le voyage touristique. C'est cette situation sociale qui a été prise comme référence par les auteurs des différents niveaux seuil pour, sur la base de la compétence du natif, imaginer les différentes situations et les différents actes de parole et les différentes notions qui seront nécessaires pour gérer cette situation sociale de référence. Dans le cadre européen commun de référence, il y a deux nouvelles situations de référence qui émergent. Celle du citoyen dans une société plurilingue et pluriculturelle. Si vous connaissez le cadre, c'est évident. Il y a tout un chapitre, même une partie là-dessus. Et, ça c'est moins évident, par contre, c'est l'agir professionnel dans une langue qui ne peut plus tout à fait, peut-être, être appelée langue étrangère, mais nous reviendrons sur cette affaire. La gestion, ce qui est important de voir, c'est que les deux nouvelles situations de référence, le citoyen dans une société plurilingue et pluriculturelle, d'une part. D'autre part, le professionnel dans son propre milieu de travail, par rapport à la situation sociale de référence de l'approche communicative, il y a deux différences essentielles. La première, c'est qu'il ne s'agit plus seulement d'agir sur l'autre et l'autre qui agit sur lui, interaction, mais il s'agit d'agir avec l'autre. Donc il y a une dimension collective dans l'activité et une finalité collective en même temps dans l'activité. Et la deuxième caractéristique fondamentalement différente de ces deux nouvelles situations par rapport à la situation de référence de l'approche communicative, c'est qu'il s'agit d'une action dans la durée. Lorsqu'on agit avec l'autre, on a déjà agi avec lui avant et on va continuer à agir après. Citez-moi un dialogue audiovisuel, mais c'est pas un lapsus, ça commençait déjà avec la méthodologie audiovisuelle. Citez-moi un dialogue d'un manuel audiovisuel et d'un manuel communicatif où les gens, où les interactants, sans transition, continuent à parler de ce dont ils ont déjà commencé à parler. À chaque fois, c'est le début d'une conversation. D'accord ? L'engagement, à chaque fois, c'est le début d'une conversation. Culturellement, à chaque fois aussi, c'est le début. D'ailleurs, on ne parle plus d'enseignement ou d'apprentissage culturel. On parle de sensibilisation ou on parle de découverte culturelle. Vous avez dans sensibilisation et découverte, vous avez un concept commun qui est, comme on dit en linguistique, l'incoatif. Vous connaissez les verbes incoatifs qui marquent le début de l'action. Voilà. Bon, il faudrait peut-être que je m'arrête là parce que sinon je vais vous faire toute ma conférence à partir de ça et c'est quand même pas le but. C'est pour ça que j'ai utilisé le PowerPoint quand même pour m'obliger un petit peu à linéariser un peu plus. Alors, c'est quoi ça? Oui, je vais vous présenter maintenant un tableau que vous connaissez déjà si vous avez lu cet article. C'est un tableau qui présente l'évolution des configurations historiques au cours de l'histoire depuis un siècle et demi en France, sinon en Europe. On peut dire que l'approche communicative correspond à une configuration didactique, est elle-même intégrée dans une configuration didactique qui lui donne tout son sens. Ce qu'on appelle maintenant, vous avez entendu parler de la didactique du plurilinguisme. Cette didactique du plurilinguisme correspond à une autre configuration didactique. Et la perspective actionnelle du cadre européen commun de référence, j'ai nommé la perspective de l'agir social ou co-actionnel, correspond à une troisième configuration didactique. Vous avez compris pourquoi le cadre européen commun de référence est un texte, pour moi, didacticien et historien de la didactique, d'une confusion extrême. D'une confusion extrême, puisqu'il y a trois configurations didactiques simultanément prises en compte, sans qu'elles soient explicitées, et sans que les implications de l'une et de l'autre, ou des combinaisons, soient tirées clairement dans ce texte. Bon, vous avez compris que ce n'est pas ma Bible, mais j'en ai pas de toute façon, donc voilà. Alors, voilà le fameux tableau. Vous avez la configuration numéro 3, 4 et 5, qui correspond, la 3 correspond à l'approche communicative, la 4 correspond à toute la partie du cadre sur le plurilinguisme et le pluriculturalisme, et le 5 correspond à la troisième, à savoir celle de l'agir social professionnel. On peut, si vous voulez, réunir 4 et 5 en disant que la 4, il s'agit d'un agir social citoyen dans le cadre d'une société multiculturelle, et la 5 correspond à l'agir social professionnel. professionnel. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir comment, dans ce cadre européen commun de référence, le 4, est-ce que le 4 qui est un agir social citoyen, est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il ne correspondrait pas à une conception de la société qui est plus celle proche de la France, où il faut un projet de société, c'est-à-dire que pour faire société, surtout quand les gens sont d'origine langagière et culturelle différente, il faut qu'on ait un projet commun. Donc on est quand même dans une conception de la société, me semble-t-il, dans ce cadre, qui est beaucoup plus proche de la conception française, très exigeante, que de la conception, pour aller vite, anglo-saxonne, où on peut se contenter de coexister, c'est-à-dire de vivre avec. D'accord ? Or, dans la conception française de la société, il ne s'agit pas de développement séparé, il ne s'agit pas seulement de se respecter, mais de partager un projet collectif au niveau social. Alors, je ne vais m'intéresser qu'à cette partie-là. Excusez-moi, une définition de configuration didactique, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu, ce numéro du Français dans le Monde. Une configuration didactique apparaît à un moment historique où se prennent en cohérence, arrivent à se prendre en cohérence à la fois un objectif social de référence langagier, un objectif social de référence culturel, un agir d'usage de référence, un agir d'apprentissage de référence, et c'est ce qui permet de construire une nouvelle, il y a un petit lapsus calami ici, c'est pas configuration didactique, mais configuration méthodologique. Je me demande si dans le Français dans le Monde, d'ailleurs, j'ai pas fait le même lapsus, mais c'est configuration méthodologique. Je prends l'exemple, qui sera le plus simple et le plus rapide, de l'approche communicative, que tout le monde connaît. Dans l'approche communicative, l'objectif langagier de référence, c'est donc la capacité à échanger ponctuellement des informations avec des étrangers. Certains didacticiens me critiquent en disant tu réduis l'approche communicative à quelque chose. L'approche communicative, c'est plus complexe que ça. Peut-être, ça s'est complexifié. Mais à l'origine, moi, j'ai le réflexe d'historien, c'est-à-dire de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de revenir au départ. Voilà, c'est au départ que ça se joue. Or, dans les niveaux seuils, comme je disais tout à l'heure, la situation sociale de référence, c'est bien l'interaction langagière la plus rapide, immédiate et efficace possible avec des gens qu'on ne connaissait pas auparavant et qu'on va quitter très vite. Voilà, voyage touristique. OK ? Dans les manuels communicatifs, vous avez remarqué, on loue plus souvent des chambres d'hôtel que des appartements. Ben oui, c'est sûr. Je raccroche mes wagons. Dans chaque configuration didactique, il y a toujours une mise à niveau entre l'objectif social culturel de référence et l'objectif social langagier de référence. Ça se passe parfois de façon dans un sens différent. C'est-à-dire que dans l'approche, dans la méthodologie dite traditionnelle, c'était l'objectif culturel de référence qui était la reconnaissance des valeurs que l'on supposait partager avec les auteurs des ouvrages, des textes que l'on lisait. C'était cet objectif culturel de référence qui avait modélisé l'objectif langagier de référence. Si vous voulez très rapidement comprendre un texte étranger, dans la situation de ce moment-là, où on est sur le paradigme indirect, c'est-à-dire qu'on considère à ce moment-là que lire un texte, c'est faire une traduction mentale instantanée. Parler à un étranger, c'est faire un thème oral instantané. Comprendre un étranger, c'est faire une version orale instantanée. Si c'est ça la conception que vous avez du parler une langue étrangère, comment du lire en langue étrangère, version mentale instantanée et presque inconsciente, ben comment vous allez préparer les élèves à ça? Eh ben, en les entraînant systématiquement à la traduction, à partir de textes écrits. D'accord? Donc, il y a toujours, je vous donne un exemple rapide, il y a toujours mise à niveau entre l'objectif langagier et l'objectif culturel de référence. Je vous ai donné un exemple où c'est l'objectif culturel qui a été prioritaire et l'objectif langagier s'est adapté à l'objectif culturel. C'est la même chose dans la méthodologie dite directe ou active des années 1900-1960 en France jusqu'à l'arrivée non comprise de la méthodologie audiovisuelle. C'est toujours l'objectif culturel qui est prédominant et l'objectif langagier va venir s'adapter à l'objectif culturel. Ce qui se passe avec l'approche communicative, c'est qu'on inverse les choses. C'est l'objectif langagier qui devient prioritaire. C'est l'échange le plus rapide et efficace d'informations avec quelqu'un que l'on rencontre encore une fois pour la première fois. Et l'approche interculturelle, c'est pas par hasard s'il y a synchronie entre l'approche communicative et l'approche interculturelle. L'approche interculturelle est venue, en quelque sorte, aider, elle est venue en deuxième couteau, en quelque sorte, aider à l'obtention de cet objectif langagier. Hein. Pourquoi est-ce que, dans l'approche interculturelle, pourquoi est-ce que le thème dominant, ce sont les stéréotypes? Et pourquoi surtout les stéréotypes négatifs? Ben justement parce que, dans la rencontre initiale avec un étranger qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré personnellement auparavant, eh bien, ce qui va se jouer en termes de représentation, en termes d'image culturelle, ce sont les images préalables que l'on a de lui, ces fameux stéréotypes sociaux, justement. Et l'objectif, justement, c'est une bonne maîtrise de ces représentations qui vont pouvoir éventuellement aider ou au contraire venir interférer avec la bonne transmission du message. Deuxième caractéristique transhistorique, c'est une loi transméthodologique, c'est la relation d'homologie maximale entre l'agir d'usage de référence et l'agir d'apprentissage de référence. En d'autres termes, très simple, on a toujours privilégié, dans toutes les configurations didactiques, on a toujours privilégié comme activité en classe celle qui ressemblait le plus à l'activité à laquelle on voulait préparer les élèves plus tard en société. Exemple que vous allez comprendre tout de suite, on veut former des apprenants à communiquer en société, qu'est-ce qu'on essaye de faire le plus vite, le plus intensément possible en classe pour les préparer à ça? Eh bien la même chose mon capitaine, on les fait communiquer, non seulement entre eux, mais aussi comme s'ils étaient déjà en société, l'homologie maximale. Et c'est ce qui explique le statut de la simulation dans l'approche communicative. Le statut de la simulation dans l'approche communicative, c'est lié à cette volonté d'aller chercher cette homologie maximale avec les dents, en quelque sorte. D'accord? Je vous signale au passage que, du coup, ça fait passer un message subliminal, s'il n'est pas explicite, si tant est qu'il ne soit pas explicite. Un message subliminal en didactique scolaire, qui est le prof qui dit, bon, écoutez, je suis désolé, hein, moi, on me demande de vous enseigner la langue étrangère en classe, c'est pas génial, c'est pas le meilleur moyen. Et puis vous, on vous le demande de l'apprendre en situation scolaire, c'est pas génial, hein, le mieux c'est quand même de l'apprendre en société, mais surtout, ne vous inquiétez pas, on va faire constamment en classe comme si on était en société. Pour motiver à l'apprentissage scolaire des langues, on va dire qu'on peut imaginer mieux comme discours, me semble-t-il. Alors, relation d'homologie maximale, je vous donne un autre exemple, pour comprendre un petit peu que chaque configuration didactique était parfaitement cohérente. Ce qui s'est passé avec la configuration didactique numéro 3, c'est que ça apparaît à un moment où on veut développer les voyages à l'intérieur de l'Europe. On veut développer la capacité des citoyens européens à rencontrer les autres Européens. Voyage touristique. Auparavant, c'était pas du tout le même objectif langagier de référence, ni culturel. Jusqu'aux années 70, et c'est pour ça que c'était une autre configuration didactique, on considérait que très peu d'élèves, voire aucun des élèves que l'on avait devant soi, n'aurait jamais l'occasion de rencontrer personnellement des étrangers. Voilà. Mais vous savez qu'il y a plein de pays où ça se passe encore, ça. Dans ce cas-là, si aucun des élèves que vous avez devant vous, si vous pensez qu'aucun ne va avoir l'occasion de rencontrer jamais un étranger, quelle est la seule chose que vous puissiez faire rationnellement? Eh bien, c'est de les préparer à maintenir plus tard un contact à distance avec la langue et la culture étrangère, à distance, c'est-à-dire par documents authentiques. Vous préparez vos élèves à continuer à entretenir leur langue et leur culture en lisant des journaux, en lisant des textes littéraires, en écoutant la radio, en regardant la télévision. Okay ? Si c'est ça votre objectif, vous savez déjà ce qu'on va faire en classe ? La même chose. Et ça vous donne l'explication de texte à la française. L'explication de texte à la française, c'est une macro-activité où on forme les élèves à extraire du texte de nouvelles connaissances linguistiques et de nouvelles connaissances culturelles et à mobiliser à l'occasion du travail sur le texte de nouvelles les connaissances linguistiques, langagières et culturelles qu'ils ont déjà. C'est-à-dire exactement ce à quoi on veut les former pour plus tard. Donc c'est parfaitement cohérent. Chaque configuration didactique est parfaitement cohérente. Et ce qui explique l'apparition de la didactique du plurilinguisme d'un côté et l'apparition de cette perspective de l'agir social de l'autre, vous avez compris que c'est la préparation d'autres situations sociales de référence en contact, qui n'est plus d'ailleurs du contact, d'autres situations de référence en ce qui concerne l'utilisation de la langue et de la culture étrangère, et on va mettre une paire de guillemets, on verra tout à l'heure pourquoi, à savoir encore une fois, le contact, la coexistence dans la longue durée en tant que citoyen dans une société plurilingue et pluriculturelle d'un côté, et d'autre part, le travail dans la longue durée, le travail professionnel dans la longue durée, en langue et en culture étrangère, mais encore une fois, paire de guillemets, on y reviendra. Donc voilà. Si on prépare désormais les élèves à agir, à être capable d'agir, d'être un acteur social, des acteurs sociaux responsables dans une société multiculturelle, quelle est la particularité d'une société multiculturelle et multilingue? C'est que constamment, on doit passer d'une langue et d'une culture à l'autre, puisque vous avez des gens de langues et de cultures entièrement ou partiellement différentes qui cohabitent en permanence. Et donc la compétence de base, la compétence, le cœur de compétence du citoyen, c'est de pouvoir justement faire le passeur entre des langues et des cultures différentes. Vous savez que c'est ça maintenant l'objectif de cette didactique du plurilinguisme. C'est ce qu'on appelle les activités de médiation, qui émergent dans le cadre européen commun de référence, pas par hasard, puisque l'activité de médiation, ça devient le cœur de compétence d'un citoyen dans une société plurilingue et pluriculturelle. Si vous voulez préparer les élèves à faire ça, eh ben vous allez leur demander de faire la même chose en classe. Alors c'est ce à quoi essayent de penser actuellement ceux qui travaillent sur la didactique du plurilinguisme. Okay ? Il va y avoir un colloque bientôt à Tours, je crois, sur la didactique du plurilinguisme. Et puis, si un autre objectif maintenant, c'est de former nos élèves, nos apprenants, à être capables, plus tard, de travailler professionnellement dans une autre langue que leur langue maternelle, toute une partie de leur carrière, déjà une partie de la carrière universitaire. Ils vont aller faire une partie de leur carrière, de leur formation universitaire à l'étranger. Ils vont recevoir, même s'ils restent chez eux tranquillement, ils vont pas y échapper. Ils vont de plus en plus avoir des cours en langue étrangère dans leur formation universitaire. D'accord ? Et puis, vous avez déjà des gens qui passent toute leur carrière professionnelle, ou une très grande partie de leur carrière professionnelle, et il y en aura de plus en plus, qui la passent à l'étranger, ou qui, en France même, je prends l'exemple français, excusez-moi, un peu d'ethnocentrisme au passage, vous avez déjà des Français qui travaillent en France dans des entreprises françaises, en langue, tous en cœur, anglaise. Voilà. Qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, mais on sait que c'est une réalité déjà présente et qui risque de se développer à l'avenir. Alors, vous avez compris la différence entre l'agir sur, qui est encore une fois l'acte de parole de l'approche communicative dans le cadre d'une action langagière globale qui est la communication, l'acte de communication, et c'est la différence entre ça et l'agir de référence de la perspective de l'agir social qui est, ben merci, la palisse, l'action sociale. Il ne s'agit plus d'agir sur, mais d'agir avec, dimension collective, par rapport à une dimension de l'approche communicative qui est quand même très individualiste. Hein. Je pense que les philosophes qui se pencheront sur l'histoire de l'approche communicative noteront l'influence très forte de ce qu'on appelle l'individualisme dans l'approche communicative. Même l'interaction dans l'approche communicative, elle est privilégiée, l'interaction privilégiée dans l'approche communicative, elle est inter-individuelle. C'est-à-dire qu'a priori, le groupe de référence dans l'approche communicative, c'est le groupe de deux. C'est très intéressant de voir maintenant dans les manuels où vous avez des propositions groupe de trois, groupe de cinq, en sac à dos par exemple. Merci Diffusion au passage. Mais je passe de la pommade parce qu'après je vais critiquer un petit peu ce manuel. Donc voilà. Et puis grand groupe. Voilà. Si cette homologie maximale dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir, on a toujours privilégié comme activité en classe l'activité qui ressemble le plus à l'activité auquel on veut préparer les élèves plus tard en société. D'accord ? Si cette homologie maximale continue à fonctionner, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas continuer à fonctionner, moi. En tout cas, c'est un paradigme pour moi, je ne peux pas aller au-delà. On verra peut-être ce qui se passe dans les années qui viennent. Si cette homologie maximale continue à fonctionner, vous avez compris que pour former un acteur social plus tard en société, en langue, eh ben, on va faire la même chose en classe. C'est-à-dire qu'on va le faire agir dès l'espace de la classe, dès le temps de l'espace, comme un vrai acteur social. Eh ben ça existe déjà, depuis longtemps, en pédagogie générale. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie du projet. Vous connaissez Freinet, par exemple. L'idée de Freinet, Célestin Freinet, c'était de dire le système scolaire a pour mission éducative de former un citoyen. La meilleure manière de former un citoyen plus tard, c'est de le faire agir en tant que citoyen en permanence dans l'espace même de la classe, entre eux, entre élèves. Et toutes les techniques, toutes les fameuses techniques freinées, en fait, ne sont que des techniques qui viennent au service de cette conception fondamentale où l'on retrouve justement cette fameuse homologie entre l'activité de référence en classe, l'agir d'apprentissage de référence et l'agir social de référence. Donc pour moi, il est évident que la mise en œuvre privilégiée, je ne dis pas exclusive, mais la mise en œuvre privilégiée de la perspective de l'agir social en classe, c'est quelque chose qui va ressembler à la pédagogie du projet, même si on ne peut pas revenir à celle de Célestin Freinet, et qu'il faudra sûrement greffer, mais on y reviendra aussi pourquoi, il faudra sûrement y greffer de la pédagogie différenciée, parce que le problème du maintien d'une progression collective en langue est absolument indispensable. Ce n'était pas le problème de Célestin Freinet. Il faudra aussi y mettre de la pédagogie du contrat et de la pédagogie de la négociation. Je reviendrai tout à l'heure sur la distinction entre simulation et convention, qui renvoie à contrat. La convention va être à la perspective de l'agir social en langue ce que la simulation était à l'approche communicative. Voilà. Ah ben ça y est, le point d'interrogation, il était déjà fait. Donc, comme je vous le disais au début de mon intervention, je propose, il y a toujours eu perspective actionnelle, si tant est que l'on donne à perspective actionnelle la définition la plus abstraite possible, qui est celle de la relation. Je définis perspective actionnelle comme la relation d'homologie maximale entre un certain agir d'usage et un certain agir d'apprentissage. On a vu que les agirs d'usage se modifiaient, et quand le nouvel agir d'usage était trop en décalage par rapport à l'ancien, eh bien on passait d'une configuration didactique à l'autre. D'accord ? Mais une fois qu'il y a un nouvel agir d'usage, l'agir d'apprentissage de référence, il est donné presque mécaniquement. Ça va être la loi d'homologie. Cette relation d'homologie entre l'agir d'apprentissage et l'agir d'usage a toujours fonctionné jusqu'à présent dans l'histoire de la didactique. Ça permet... Pourquoi aller chercher un concept ? Pourquoi mettre perspective actionnelle, donner à perspective actionnelle un sens plus abstrait? Eh bien, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça permet de définir de façon spécifique, originale, l'originalité de la perspective actionnelle, de la nouvelle perspective actionnelle qu'on nous propose, qui est celle de l'agir social. Voilà. Et le nouvel enjeu formatif, la formation d'un acteur social. Et il faudrait peut-être que je rentre dans le thème de ma conférence, quand même, compétences informationnelles. Je propose déjà, de façon provisoire, mais c'est une définition qui me convient tout à fait. La compétence informationnelle, ça va être la capacité à agir sur et par l'information en tant qu'acteur social. Agir par l'information, on l'a déjà dans l'approche communicative. C'est l'acte de parole. C'est l'acte de parole qui est un agir par l'information. Ce qu'il n'y a pas dans l'approche communicative, c'est un agir sur l'information en amont, avant l'acte de communication. Et ce qu'il n'y a pas non plus dans l'approche communicative, c'est un agir sur l'information en aval de la communication. Agir sur l'information en amont de la communication et en aval de la communication, par rapport à l'acte même de la communication, voilà quelle va être, si vous voulez, la grande différence entre ce qui va impliquer une série de différences fondamentales dans la mise en œuvre de la perspective de l'agir social. On verra bien sûr des exemples concrets tout à l'heure. Alors, sans transition aucune, j'essaye toujours dans toutes mes conférences de placer sans transition aucune, parce qu'il paraît que, contrairement, paradoxalement, c'est la preuve d'un bon animateur. Il y a toujours un moment où il doit dire sans transition aucune. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je me plie à cette obligation professionnelle. Sans transition aucune. Mais bon, la transition, vous l'aurez quand même après. L'un des derniers textes de l'UNESCO, c'est celui-ci. Introduction à la maîtrise de l'information. Ça renvoie à la thématique de la société de l'information, de la société de la connaissance, de la gestion des connaissances. Encore que gestion des connaissances, ça renvoie plutôt à management d'entreprise. Ce sont des thématiques très fortes de réflexion sur les enjeux actuels des sociétés modernes. Les enjeux actuels des sociétés modernes. Et vous trouvez ce type de réflexion aussi bien dans les travaux de l'OCDE que dans les travaux de l'UNESCO, que dans les travaux de l'ONU. Et c'est pas par hasard si la perspective de l'agir social qui émerge plus ou moins confusément et inconsciemment dans le cadre européen commun à référence, c'est pas par hasard non plus si les implications de cette perspective de l'agir social nous demandent de nous intéresser aussi à cette maîtrise de l'information. Un citoyen dans une société moderne doit être capable de maîtriser l'information. Et ça veut dire quoi ? Ah pardon, pourquoi j'ai mis ça là ? Sans doute parce que, oui, c'est l'avant-propos de ce document. Et de ces quelques lignes de l'avant-propos, je définis là aussi de façon provisoire la maîtrise de l'information. C'est la capacité à chercher, évaluer, utiliser et créer l'information pour des objectifs personnels, sociaux, professionnels et éducationnels. Voilà quelle serait la définition de référence par rapport à ces petites lignes que vous avez au-dessus. Mais moi, la définition que je propose, c'est pour ça que j'ai commencé par la mienne, c'est donc la capacité à agir sur et par l'information en tant qu'acteur social. Mais bon, tout ça, ce sont des périphrases pour désigner quoi ? Ce qui est le plus intéressant dans ce document, c'est qu'il nous propose 11 étapes du cycle d'acquisition de la maîtrise de l'information. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé du cycle d'acquisition de la maîtrise de l'information, parce qu'en même temps, c'est évident que c'est le cycle de mise en œuvre de la maîtrise de l'information. C'est-à-dire qu'on doit faire ce cycle à chaque fois si on veut, sur un élément d'information, agir véritablement comme un acteur social responsable. Et vous avez tout ça. Alors, je ne prends pas le temps de lire, encore que ce serait intéressant, pour bien que vous vous pénétriez. Mais pour vous aider un petit peu, j'ai mis quelque chose en rouge. Vous avez compris que le rouge, ça correspond à l'approche communicative. Voilà la seule chose à laquelle s'intéresse l'approche communicative dans ce processus complexe de maîtrise de l'information qui suppose tout un traitement en amont de l'information, de 1 à 7, c'est un traitement en amont de l'intervention, et de 9 à 11, c'est un traitement en aval de l'information. Je crois qu'on pourrait rajouter d'autres choses en aval de l'information et sans doute aussi d'autres choses au-dessus. Enfin, il ne faut pas non plus trop complexifier les modèles parce qu'ensuite, un modèle par définition, ça doit simplifier quelque part la complexité tout en donnant une perception de la complexité. Il me semble que ça suffit déjà pour toucher du doigt, si vous voulez, la complexité des activités qui doivent être prises en compte dans une gestion citoyenne de l'information. D'accord ? On pourrait rajouter que, en aval, la responsabilité d'un acteur social vis-à-vis de l'information, ça demande de faire en quelque sorte du service après-vente de l'information. C'est-à-dire non seulement de vérifier si l'information a été bien comprise, ça c'est l'approche communicative, ça va jusque-là, mais aussi vérifier si l'information a été effectivement utile pour celui qui a agi avec l'information qu'on lui a fournie. Si l'action qu'il a faite avec l'information qu'on lui a donnée, ce serait pas par hasard une information complètement contraire à celle que nous pensions. Et puis, dans le cadre d'une action commune, est-ce que l'information qu'on a transmise à l'autre, est-ce qu'effectivement, elle nous a aidé ensuite à agir en commun? Or, quel est l'exercice de référence de l'approche communicative? C'est le couplage du pair-work, bon, l'inter-individuel, comme je disais tout à l'heure, le couplage du pair-work et de l'information gap. L'information gap, ça veut dire quoi ? Voilà, vous avez on dit à un élève, tu as telle information, à l'autre, tu as telle information, allez-y, stop, attendez. On donne un citoyen, on lui donne une information et il la transmet ? Ben non, il commence par l'évaluer. Il commence par, est-ce que cette information me parle ? Est-ce qu'elle est fiable ? Regardez comment on doit faire maintenant sur Internet. Sur Internet, on ne prend pas de l'information pour la transmettre. Il est absolument essentiel d'être capable de l'évaluer. Et d'abord, de savoir où chercher la bonne information. Et avant de chercher la bonne information, il faut déjà se poser le problème de ce qu'on veut faire avec l'information. La grande rupture d'Internet, c'est ça. C'est que pour la première fois de l'histoire de la didactique, les élèves peuvent être d'un seul coup confrontés à une masse énorme de documents. C'est plus le document authentique choisi par le concepteur du manuel ou par le professeur qui l'amène comme le prêtre l'ostensoir, le document authentique. On se prosterne. Et puis, on en utilise et on en épuise toutes les potentialités culturelles et langagières. On épuise le document et on épuise les élèves au passage, d'ailleurs aussi. Avant de mettre les élèves devant un écran d'ordinateur, avant même d'allumer et d'aller sur Internet, ils doivent savoir ce qu'ils doivent ou ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que c'est une rupture culturelle. C'est-à-dire qu'on passe de « au début était le verbe », vous avez compris que vous mettez un V majuscule, le document authentique, à « au début était », et c'est Goethe qui l'a dit, « au début était l'action ». C'est une phrase de Goethe. Voilà, donc si on voulait être méchant par rapport à l'approche communicative, mais je ne voudrais pas être méchant parce que je pense que l'approche communicative, il faut arrêter de jouer maintenant le film des cow-boys là, qu'on a joué jusqu'à présent en didactique, à savoir que toute nouvelle orientation venait complètement invalider la précédente. Alors, je charge un petit peu la barque de l'approche communicative, c'est pour vous faire un petit peu saisir, si vous voulez, le basculement d'une configuration didactique à une autre. Mais je suis persuadé maintenant qu'il faut changer le changement lui-même. C'est-à-dire que il faut maintenant... La compétence d'un enseignant, c'est d'être capable de voir quelle configuration didactique au pluriel s'adapte le mieux à quels élèves, à quel moment. Et être capable de sélectionner, de combiner ou d'articuler chronologiquement une configuration didactique et une autre. Voilà. L'agir social par l'information implique d'assumer une responsabilité sur l'information en amont, en aval de sa transmission. Je l'ai déjà dit, comme d'habitude, je vais un peu plus vite que mon pauvre point. Pourquoi est-ce que, dans l'approche communicative, pourquoi est-ce qu'on se contentait de ce contact interindividuel? C'est quand même assez massif. Et qu'on ait voulu implémenter cette approche communicative-là dans un système scolaire dont la finalité est la formation d'un acteur social, ça ne date pas de la perspective actionnelle du Conseil de l'Europe, ça, former un acteur social, c'est par définition, c'est la finalité même du système scolaire, depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on a pu penser que l'on pouvait se limiter, si vous voulez, essentiellement à cette gestion interindividuelle d'une information sociale limitée à la communication elle-même? Ben, il y a certainement la situation. J'ai fait une erreur. J'avais pas dû mettre ça avant. Hein. C'est vrai que quand on veut que les élèves nous écoutent, faut pas leur mettre sous les yeux le document suivant. Voilà. La première explication, je l'ai déjà donnée, c'est cette idéologie individualiste. L'idéologie individualiste qui a été plus forte même que la finalité collective. Je n'ai pas dit collectiviste, mais collective. Du système scolaire. Et puis la deuxième raison, sans doute, mais il y en aurait d'autres sans doute à trouver, hein, mais ça je laisse la tâche aux futurs historiens. Il y a aussi la conception de la communication qui est à la base de l'approche communicative, qui est le modèle de Shannon, bien connu. Regardez, vous appliquez ça en classe, comment vous faites marcher ça? Ah ben ça tombe bien, j'ai un émetteur, toi là, Alain, c'est toi qui parles, j'ai un récepteur, toi Didier, c'est toi, hein, tous les deux. Je vous donne une partie du message à l'un, une partie du message à l'autre, oralement, allez-y, hop. Eh ben voilà, ça marche. Et quand on a fait marcher, comme c'est ça le modèle, eh ben on passe à autre chose. La seule chose qu'ont gagné les élèves lorsqu'ils ont réussi leur exercice de information gap, c'est le droit de recommencer la même chose. On leur demande jamais ce qu'ils vont faire ensemble, ni même ce que chacun va faire avec l'information qu'il a reçue de l'autre. C'est fini, c'est communiqué, le modèle est bouclé. On passe à autre chose. On refait marcher le même modèle. Exemple concret. Voilà un... Il me reste combien de temps, là, au fait? De temps en temps, j'ai des remontées comme ça de chrono. Non? Une demi-heure, 40 minutes. On laisse un petit temps d'échange à la fin de la réunion? Eh? Ce serait gentil? Ah, si vous me prenez par les sentiments, on va être gentil. Voilà un manuel que je ne citerai pas, parce que le but de la manœuvre, c'est pas de faire du tir à la fête foraine. Hein. Quand on a une formation didactique, on peut, n'importe quelle page de manuel, on peut la critiquer pendant des heures. Si vous voulez. Bon. Mais moi aussi, j'ai fait de l'élaboration de manuel, et je me suis amusé à me faire de l'auto-tir à la fête foraine. C'est-à-dire que je prends mes manuels, c'est un manuel qui s'intitule CAPAS, hein, espagnol, langue étrangère, 91-96. Voilà, excellent manuel au demeurant pour l'époque. Il n'est plus diffusé, donc je peux me permettre de faire cette promotion, trop tard. Je disais quoi, moi? Oui, le tir à la fête foraine. Bon, allons-y. Voilà, on est à la fin d'une unité didactique. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Vous faites visiter votre collège à un nouvel élève ou à un correspondant. Tiens, c'est intéressant, voilà un projet. On est dans la pédagogie du projet. Hein, ok? Là où j'ai des angoisses dès le départ, c'est au début de la consigne. À deux. Donc je sais que ça ne va pas être un projet, mais que ça va être en fait une instrumentalisation du projet pour de l'intercommunication interindividuelle. C'est clair. Déjà, oui. Ensuite, vous faites visiter votre collège à un nouvel élève ou à un correspondant. Attention, c'est pas du tout la même chose. On ne va pas organiser, prévoir, concevoir un projet de visite d'un établissement si c'est un nouvel élève ou si c'est un correspondant. C'est tout à fait différent. Vous voyez, on ne rentre pas dans le problème de la conception du projet. Or, la conception d'un projet, c'est là que la responsabilité d'un acteur social joue par rapport à l'action qu'il va réaliser. C'est qu'il le conçoit. Il en est responsable à l'avance. Et donc, il conçoit le projet. Alors, comment est-ce qu'on transformerait ça en pédagogie du projet? Bon, on va dire, ou l'année dernière, où vous avez fait visiter, on fait visiter le collège de temps en temps. Voilà. Alors, je vous propose un projet. C'est une visite de collège. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nouveau correspondant, nouvel élève, les parents d'élèves, on peut imaginer d'autres cas de figure, parents d'élèves une journée portes ouvertes, on se met d'accord sur un projet collectif, ou alors sinon, ça tombe bien, pédagogie différenciée, vous, puisque vous voulez préparer visite d'un nouvel élève, c'est ce que vous allez faire, vous, c'est la visite aux parents d'élèves portes ouvertes, vous, c'est un nouveau correspondant, ce qui sera intéressant d'ailleurs, parce qu'au niveau de l'évaluation finale, on va pouvoir voir quelles sont les différences entre les trois projets. Okay. Alors, est-ce qu'on écrit à l'avance aux gens pour savoir comment c'est chez eux, pour voir quelles sont les différences qu'on pourrait mettre en avant au départ? Qu'est-ce qu'on choisit comme date de la visite? Est-ce qu'il faut prendre des contacts auparavant? Avec qui? Qu'est-ce qu'on va lui faire visiter? Qui est-ce qui va se charger de faire la visite? Est-ce qu'il faut demander l'autorisation au proviseur? Oui, il faut demander l'autorisation au proviseur du collège. Hein, quand on est responsable social d'un projet de visite d'établissement, la première chose à savoir, à vérifier, c'est si on a le droit de la faire. À savoir, en l'occurrence, est-ce qu'on peut obtenir l'autorisation du proviseur. Bon, vous voyez, vous pouvez multiplier ce genre de questions. Ce sont des questions qui rentrent dans ce qu'on appelle la conception du projet. La conception d'un projet, c'est une action préalable qui porte sur l'action elle-même à venir et qui donc peut modifier l'action à venir. Voilà. Cette perspective que l'on appelle en management d'entreprise de proaction. Pour être efficace dans l'action sociale, comme l'est le milieu d'entreprise, il faut déjà avoir une action préalable sur l'action à venir, c'est la conception, et il faut avoir une action en permanence sur l'action en train d'être réalisée, et c'est ce qu'on appelle les activités de métacognition. Mais ça, on y reviendra après peut-être, si Dieu ce qui est. Et comme j'ai vécu quelques années au Venezuela où le milieu doit pousser à plus de précautions, on dit « Si Dios, la Virgen y todos los santos lo quieren ». Regardez ici, en fait, c'est très clair que cette page, elle est conçue pour donner immédiatement aux élèves les situations de communication et même les outils de communication qu'ils vont utiliser. Le reste, c'est du blabla. Ce qu'on veut, c'est que très rapidement, les élèves soient capables de dire « Voilà, c'est la cantine, c'est ma copine une telle avec son plateau qui va chercher son machin, etc. » Ok ? Très clairement, on est sur un dispositif d'approche communicative. Comme son nom l'indique, dans l'approche communicative, on veut faire communiquer le plus rapidement et le plus intensément possible les élèves entre eux, comme s'ils étaient en société. Donc, on ne rentre pas dans des détails de conception de projet, on leur donne immédiatement le matériel, les idées et le matériel linguistique pour, le plus rapidement possible, communiquer. Alors, ma collègue Claire Bourignon, que vous écouterez tout à l'heure, je la vois sourire, parce qu'en fait, c'est le diplôme de compétence en langue, qui est une certification française qui a été imaginée au début des années 90, 93-94, je crois que ça a commencé, pour la certification, à l'origine, c'était réservé à des gens qui avaient une expérience professionnelle en entreprise. Et donc, cette certification se propose d'évaluer la capacité d'un employé dans une entreprise à utiliser la langue étrangère. Alors, c'est très marrant parce que si vous reprenez tous les textes des concepteurs du diplôme de compétence en langue, y compris moi, parce que je me suis mis aussi là-dedans, j'ai fait la version espagnole de ce diplôme de compétence en langue au départ, hein, c'est moi qui l'ai conçu, sur la base de ce qu'avait du travail des autres, bien entendu, et des anglicistes en particulier, on s'est pas rendu compte, on croyait qu'on faisait du communicatif. Mais en fait, mécaniquement, parce qu'on était polarisé sur le milieu d'entreprise, en fait, ce n'est pas de la communication qu'on faisait, c'était de l'action. C'est-à-dire, la communication n'est pas l'objectif, elle est le moyen de l'action en entreprise. Et je vous donne ici un exemple de différence entre qu'est-ce que c'est une compréhension orale en approche communicative et une compréhension orale en perspective de l'agir social, comme ici. On donne au candidat un dossier volumineux avec une lettre de mission, mais je crois que Claire Bourguignon, même si elle ne veut pas parler du diplôme de compétence en langue, elle parlera du concept de scénario actionnel. C'est un scénario actionnel. D'accord ? On donne un dossier avec une lettre de mission au candidat. Il sait qu'il doit, par exemple, rédiger un rapport à la fin. OK ? Et on lui donne un dossier documentaire. Ce dossier documentaire, on lui laisse le temps d'extraire l'information, mais l'information qui lui est utile, et uniquement l'information qui lui est utile pour ce qu'on lui demande de faire. La compétence qu'on lui demande, c'est pas de tout retenir et de tout recracher. L'information dans l'approche communicative, c'est comme le cochon pour les Bretons. Tout est bon. Plus on retient l'information et plus on en retransmet, et meilleur est le score. Or, dans la société de l'information, où on déborde d'informations, le problème n'est plus de communiquer. Le problème, c'est de se protéger des communications non désirées. Les spams et les répondre à tous. On en est là, maintenant. Un enjeu essentiel, c'est au contraire de sélectionner l'information. Mais on ne peut sélectionner l'information que par rapport à une action. Pas par rapport à une action que l'on veut faire avec l'information. Si on fait seulement communiquer, il n'y a aucune raison de sélectionner quoi que ce soit. Vous comprenez ? La sélection de l'information, elle ne peut se faire que par rapport à une perspective qui est en aval de la communication et qui est justement cette action par l'information et qui va donc demander des actions sur l'information en amont et en aval, comme je le disais tout à l'heure. Dans la troisième phase, le candidat, après avoir sélectionné l'information pertinente, je dis toujours... On se rendra compte que la perspective de l'agir social sera passée dans les manuels le jour où en bas d'un texte ou en bas d'un logo avec compréhension orale, on trouvera la consigne suivante. Écoutez ce document ou lisez ce document et repérez les informations qui ne s'y trouvent pas. Et vous avez compris tout à fait que c'est une consigne qui n'est paradoxale que si vous êtes dans le paradigme communicatif. Si vous êtes dans le paradigme actionnel, elle se comprend tout à fait. Elle n'est pas paradoxale. Donc, le candidat va passer dans une salle, dring, le téléphone sonne, et il a au bout du fil un examinateur qui joue un rôle dans la mission et dont la fonction principale, c'est l'informateur. Le candidat lui demande de l'information complémentaire. Voilà une autre action sur l'information. C'est repérer justement l'information qui ne se trouve pas dans les documents qu'il a, mais qu'il va pouvoir demander ensuite à cet informateur. OK ? Je n'ai jamais vu passer dans aucun manuel communicatif. Il ne peut pas y avoir ce type d'activité a priori. Puisqu'on est dans le paradigme communicatif. On est dans le paradigme que j'appelle de l'action communication. Et ça renvoie à l'article qui, si Dios quiere, la Virgen, los demás, va apparaître sur le site de mon association en décembre prochain. Et ça s'approche, il faut peut-être que je me... Voilà. Alors. Autre exemple, vous voyez, il n'est pas vieux, du 06-011, c'est une lettre de diffusion d'un site que vous connaissez, qui est francparler.org. Bon, voilà une proposition de blog. Qu'est-ce que c'est une proposition de blog dans la perspective communicative? Eh ben, on s'ingénie à suggérer aux élèves des raisons de communiquer des informations, et puis aux autres aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, vous voyez ce qui est proposé. Ce qu'on propose, c'est une action sur l'information. L'objectif de ce blog, c'est de repérer la bonne information et d'éliminer la mauvaise information. Donc, on est toujours dans le cadre de l'approche communicative, mais vous voyez qu'on a imaginé une activité que l'on n'imaginait pas, ou en tout cas, moi j'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a eu, dans le cadre du paradigme communicatif antérieur. D'accord ? La première compétence d'un acteur social en communication, c'est de savoir surtout ne pas communiquer. Et lorsqu'il communique, de savoir communiquer la bonne information à la bonne personne au bon moment. Dans les entreprises où il déborde d'informations et de communications depuis longtemps, c'est ça le grand thème de formation management d'entreprise. Apprendre à ne communiquer que la bonne information, qu'à la bonne personne et qu'au bon moment. Parce que vous recevez parfois des messages, vous êtes la bonne personne, c'est la bonne information, mais c'est pas le bon moment. C'est trop tard, vous pouvez plus rien en faire. Ou alors c'est trop tôt, et il va falloir que vous mettiez ça quelque part dans votre agenda qui déborde déjà. Donc moi maintenant, quand on m'envoie une information qui est trop tôt, je dis à mon correspondant, je vous remercie, c'est vraiment, je suis la bonne personne, et c'est la bonne information, est-ce que vous pouvez me le rappeler dans 15 jours ? Voilà. On est sur la gestion efficace de l'information. Alors, sac à dos. On va lui mettre quelques pierres dans son sac. On va créer un personnage qui sera la mascotte de votre classe. Il doit avoir comme âge la somme des âges de tous vos élèves de votre classe, comme poids la somme de tous vos poids, comme taille la somme... Monsieur, si vous voulez qu'on fasse une mascotte, ce serait peut-être à nous, non, de la faire. Si l'objectif est véritablement un objectif actionnel, si on veut que cette mascotte devienne véritablement la mascotte de la classe, on va pas leur imposer des tailles, des poids et des mesures. On commence par discuter. Alors, qu'est-ce que c'est une mascotte, à votre avis? Ça sert à quoi? Est-ce que vous avez des exemples de mascottes? Vous en avez déjà fait auparavant? Ça vous a plu? Ça vous a pas plu? Comment est-ce qu'on peut abandonner une mascotte comme un chat le long le bord d'une autoroute? J'en sais rien. À quel moment une mascotte n'est plus bonne? Ah, on discute de ça. Okay? Et puis, petit à petit, on vient à l'idée de la mascotte en classe. Et puis, c'est eux. Un acteur social, encore une fois, il a la responsabilité du travail en amont. En amont, qui est la rédaction de cette fameuse description de la mascotte. Mais pourquoi est-ce qu'on met ça, tout ça? Eh bien, parce qu'on est à la fin de l'unité didactique, et le projet ne vient que remplacer une simulation ouverte, comme dans l'approche communicative. À la fin de l'unité didactique, on propose des activités de réemploi ouvert. Donc, dans l'approche communicative, ce sont des simulations ouvertes. Et maintenant, on s'est dit, tiens, mais le projet, c'est pas mal, parce que ça vient remplacer, en fait, ça vient remplacer la situation de réemploi. De réemploi de quoi? Du matériel linguistique sur lequel on a travaillé dans l'unité. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut à tout prix faire des calculs de chiffres, parce qu'on a travaillé sur les chiffres. Si on est aussi dans une logique actionnelle d'une vraie mascotte, on ne met pas un texte modèle. On ne met pas un texte modèle. Mais on voit très bien pourquoi on a mis un texte modèle, parce que le texte modèle, c'est le modèle de réemploi linguistique. C'est le modèle de réemploi linguistique. C'est toujours la même logique qui prévaut. Par contre, voyez automatiquement, en deux, mettez en commun les données, excusez-moi, par groupe de 5. Ah, c'est plus le groupe de 2. Est-ce qu'on ne serait pas passé d'une configuration didactique à une autre? Et puis ensuite, mettez en commun les différentes. Ah, c'est le grand groupe. Intéressant. Donc on voit quand même qu'il y a des effets mécaniques de cette introduction, même limitée, de la pédagogie du projet. Et l'exemple à la suite, toute la classe décide alors. Qu'est-ce qu'il aime, adore ou déteste? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle langue elle parle? Où est-ce que... Là, on est dans la logique de la conception. On est tout à fait dans la logique de la conception, hein, qui prend ses droits, en quelque sorte, de manière presque automatique. Et je termine avec cette page. Par contre, l'évaluation. Regardez. Le premier critère d'évaluation, utilisation des connaissances lors de la rédaction du texte. Aïe, aïe, aïe. Voilà encore le fameux réemploi qui réapparaît. Et puis, présentation de la mascotte sur poster, qualité du dessin, collage, etc. au niveau esthétique. Là, quelque chose qui mécaniquement apparaît, qui est très intéressant, qui n'apparaît pas dans l'approche communicative. Dans l'approche communicative, c'est, ça va, on communique, n'ayez pas peur de faire des fautes, vous avez compris, bravo, 100%. Ici, on s'intéresse forcément dans une logique projet à la qualité du résultat. On est orienté produit et non plus seulement communication. D'accord ? Ce qui manque, dommage, ce qui manque, c'est le critère spécifique du projet qui est sa réussite. Évaluer la réussite de la fabrication d'une mascotte, ça ne peut se faire qu'à la fin de l'année. Alors, combien d'entre vous ont encore ce dessin accroché au mur de votre chambre ? Allez-y, levez le doigt. Combien d'entre vous ont encore le dessin de la mascotte sur votre t-shirt? Levez le doigt. L'évaluation d'un projet, c'est la réussite du projet, dans le critère spécifique. Et ce critère spécifique n'apparaît pas ici. Mais encore une fois, vous voyez, ce qui est intéressant quand même, c'est que on voit, dès qu'on rentre dans la logique projet, même limitée comme ça, même venant se situer dans un dispositif très massivement communicatif et langagier, On voit qu'il y a des effets mécaniques, en fait, de la perspective projet. Le passage au collectif, et non plus seulement à l'interindividuel. D'accord? Le passage au collectif. Et le passage à cette activité de conception collective préalable du projet qui apparaît. Pardon. Alors, je vous avais dit que le cadre européen n'était pas ma Bible. C'est tellement vrai que je vais me permettre aussi de faire la même analyse critique sur un certain nombre de ces grilles. Comme il n'y a pas de roulement de tambour, j'aménage un petit silence. Attention, ça va être chaud. Non, c'est en fait parce que j'ai perdu mon fil. Pas mon fil, mais pas. Alors, ce qui est intéressant, vous savez que dans le cadre, il y a des exemples de grilles portant sur les types de textes et sur des types d'activités. Donc je me suis amusé seulement à repérer dans le cadre européen commun de référence, excusez-moi, puis vous lisez pendant ce temps-là, il faut rentabiliser le temps, hein, à repérer les activités qui relèvent du projet, des activités de traitement de l'information, planification, coopération, et des types de textes qui relèvent de ce type de documents dont on ne trouve jamais l'utilisation, et c'est normal dans un manuel communicatif, qui sont des documents de travail. La perspective actionnelle, c'est une perspective de préparation à l'agir professionnel, en partie, hein. Coexistence citoyenne dans les sociétés pluriculturelles et plurilingues, mais aussi agir social, agir professionnel dans la longue durée. D'accord ? Or, c'est pas un hasard si dans les entreprises, on croule, quand je dis « on », je m'intègre un petit peu là-dedans, il croule, c'est un peu moins vrai dans l'éducation nationale, il croule sous les rapports et les notes de service. Il croule aussi sous la nécessité de faire, sur la réunionnite qu'on appelle ça. Un projet doit forcément y avoir de la métacognition, on regarde ce qu'on fait au moment où on le fait, et puis on ne peut pas attendre la fin pour l'évaluer. Il faut une évaluation en permanence qui va permettre de mettre en récursivité en disant « tiens, mais là, on s'arrête ». C'est plus bon, on change d'objectif, on revient sur une tâche antérieure qui a été mal faite, on ajoute une tâche antérieure à laquelle on n'avait pas pensé. D'accord? Vous avez trois caractéristiques du projet, c'est la proaction, c'est la métacognition, et c'est la récursivité. D'accord? La mise en récursivité. C'est ce qui fait la différence entre un projet et une procédure, par exemple. Une procédure qui est une série prédéfinie d'activités préformatées. Dans une procédure, vous suivez les activités exactement quand on vous le demande et dans le sens où on vous le demande, vous êtes sûr d'arriver au bon résultat. C'est pas du tout le cas d'un projet. Le projet a été inventé en éducation par qui on sait, et puis il a été aussi appréhendé, bien utilisé en entreprise à partir du moment où elles se sont rendues compte dans les entreprises qu'il suffisait pas de faire un bon produit pour le vendre et que le milieu était devenu très, très compétitif et complexe. L'idée même du projet, c'est l'action en milieu complexe. Voilà. C'est ça l'idée fondamentale du projet. Et c'est parce qu'on est en milieu complexe qu'il faut concevoir à l'avance, s'observer en permanence, métacognition, et faire de la récursivité aussi en permanence. Donc c'est pour ça qu'il y a des réunions très fréquentes dans les entreprises, et c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de rapports et de notes dans les entreprises. Bah, tout simplement parce que dès qu'on est sur de l'action collective, tout le monde ne peut pas collaborer en permanence, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas faire toute l'action en permanence. Alors que dans le cadre de l'approche communicative, si on divisait par deux, tous les groupes de deux faisaient la même chose. Vous êtes d'accord? Si par contre on est dans une logique projet collectif, tout le monde ne peut pas faire collectivement en même temps la même chose. Par contre, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de rapports et de notes en entreprise, l'action, tout le monde doit avoir en permanence la vision de l'action collective, mais tout le monde ne peut pas faire les activités. Tout le monde ne peut pas faire les mêmes activités. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de rapports et de notes de service? C'est de la réintégration des activités spécifiques dans l'action collective. Un rapport en entreprise, ça n'est pas de la communication. Voilà. Si vous arrivez à comprendre ça, aujourd'hui, vous avez modifié le paradigme. Un rapport en entreprise, ce n'est pas de la communication, c'est de l'action partagée. C'est de la mise en commun de l'action. Et la communication n'est qu'un outil de redistribution collective de l'action qui a été faite par les uns et par les autres. On verra aussi que la la perspective de l'agir social sera passée dans les manuels le jour où on fera travailler en classe et où les éditeurs proposeront dans les manuels des notes de travail. Qu'est-ce que c'est lorsque vous prenez des notes sur un exposé et que vous remettez au propre vos notes sur un exposé et qu'ensuite vous allez prendre des notes sur d'autres ouvrages et puis à la fin vous allez rédiger votre exposé final. Vous prenez des notes sur une conférence, vous prenez des notes sur des ouvrages, vous remettez au propre, vous réécrivez chacune de ces notes, vous réfléchissez, vous écrivez des synthèses partielles. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous faites ça? Vous faites de la communication? Non. Non. Vous faites du traitement de l'information, préparant une action commune, qui est l'exposé que vous allez faire. Alors vous pouvez dire, oui, je suis en train de communiquer avec moi, et le fait de remettre au propre des notes que j'ai prises avec l'auteur, c'est une communication avec l'auteur, d'accord? À partir du moment où tout est communication pour vous, rien n'est communication. Le concept n'est plus pertinent. Le concept n'est plus pertinent. Je me rappelle que moi, à l'âge que j'ai mangé, j'allais dire autre chose, plus grossier, beaucoup de politique, et pour moi, c'était tout est politique. Jusqu'à ce que j'ai vu un philosophe, je me rappelle plus qui c'était, mais peut-être qu'avec un moteur de recherche, je vais le retrouver, disant, oui, c'est vrai, tout est politique, mais il faut pas quand même oublier, je vais faire une petite réserve, le tout n'existe pas. Et en quelque sorte, ça change tout. Voilà. Alors, regardez planification. Je reviendrai sur le fait que, pas de descripteur A1, je veux bien, mais B2, un descripteur, C1 comme B2, C2 comme B2. Ah, c'est génial, ça! C'est génial! Enfin, je réintègre ma subjectivité de professeur. L'élève qui fait exactement ce qu'il y a en B2, à la tête du client, ah bah, t'es sympa, tu progresses, je vais te mettre C2 ou je vais te mettre C1. C'est un bug logique, non? On va nous faire passer qu'il s'agit d'une objectivation, une scientifisation de l'évaluation, ce truc. Alors qu'il y a une ouverture énorme pour la subjectivité de l'enseignant. À la tête du client, il peut mettre C2, C1 ou B2. Alors, regardez, planification. Je vous avais eu le temps, j'espère, de lire, pendant que je racontais mes bêtises. Ce qui est caractéristique, pour aller vite, c'est que cette planification, elle est prise en compte uniquement de manière individuelle. Il n'y a pas la prise en compte du collectif là-dedans. Ni en termes de planification collective, ni en termes d'action collective à la suite. Regardez en B2, le top, c'est l'effet à produire. Le top. Quand vous êtes sur une réunion de planification de travail, là, le top, c'est d'arriver à vous imposer, à montrer que vous êtes intelligent. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça vient de l'approche communicative. C'est l'acte de parole. Mais dans une perspective actionnelle, c'est pas l'effet à produire sur l'autre qui importe. C'est l'efficacité de l'action à venir. Et c'est là qu'on la juge. C'est là qu'on la juge, la planification. Pas au moment où le type est en train de faire son malin dans la réunion, mais au moment où l'action est finie et qu'on l'évalue. Ça vous plaît, le tir à la carabine? On continue? Coopérer. Très vite. Vous lisez B1. Faciliter le développement des idées en cours, inviter quelqu'un à se joindre à la discussion. B2. Inviter les autres à participer, faciliter le développement de la discussion. C1. Le top. Relier habilement sa propre contribution à celle des autres interlocuteurs. Vous voyez comment la dimension individuelle et langagière s'imposent comme le top de la coopération. Si vous réfléchissez un petit peu, si vous vous mettez dans une logique d'action commune, il faut inverser exactement, il faut inverser B1, B2, et il faut inverser B1, B2 et C1. Il faut les inverser. Parce que vous trouvez en B1, par exemple, peut inviter quelqu'un à se joindre à la discussion. Faciliter le développement des actions en cours. C'est ça la compétence maximale en termes d'action collective dans une action de coopération, non? C'est pas introduire habilement ses propres idées. Essais et rapports. On en parlait tout à l'heure. Regardez, peut produire des rapports, peut exposer par écrit, peut écrire un essai, peut écrire de brefs essais, peut résumer, peut écrire. Je suis parti du haut en bas, excusez-moi, j'ai pris les choses à l'envers. Ce qui est clair, c'est que d'abord, un essai, c'est pas la même chose qu'un rapport. Un essai, c'est une communication, alors qu'un rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'action partagée. On ne peut pas traiter de la même manière un essai et un rapport. Rien à voir, mon capitaine, en termes de relations hiérarchiques entre communication et action. Et vous voyez que on trouve en B2 peut synthétiser des informations et des arguments issus de sources diverses. Voilà le seul critère qui renvoie à un traitement éventuellement collectif de l'information, et on le trouve qu'en B2, et il devrait être en C1. Et alors là, c'est le top. Là, on est à la fête foraine, mais on nous propose le bazooka. B1, B2 comme B1, C1 comme B1, C2 comme B1. Encore, on échappe au pire parce qu'il y a au moins un descripteur en A1, parfois il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à faire une grille qui est complètement incohérente? Pourquoi? Parce qu'on est dans le délire de grille. On veut faire des grilles pour tout, même quand on n'aura pas les moyens de les faire. Pourquoi on n'a pas les moyens de faire du B2, du C1 et de C2? Ben là aussi, on pourrait faire un petit atelier là-dessus. Les seuls critères qu'on utilise sont des critères communicatifs. Et pour aller plus haut, il faudrait prendre des critères actionnels et non plus des critères communicatifs. Donc, je vous disais que le cadre européen, il est déjà un peu bancal, un peu confus, parce qu'on est sur trois configurations à la fois. On ne sait pas très bien quelle est la distinction entre, par exemple, approche communicative et approche actionnelle. C'est pas très clair, hein, dans le cadre, vous avez remarqué. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que l'orientation nouvelle que l'on annonce, la perspective actionnelle, elle n'est absolument pas prise dans aucune des grilles. Les grilles en restent aux critères de l'approche communicative. Alors, revenons à ça. Il me reste combien de temps? 2 minutes? 5? Revenons à ça. Et vous vous rappelez que j'avais constaté que dans cette chaîne de traitement de l'information, dans l'approche communicative, on se limitait généralement à cette seule activité. D'accord? Une des raisons pour laquelle on se limitait à cette activité, bon, même si c'est le tir à la fête foraine, il faut quand même réfléchir, pourquoi on se limitait à ça? C'est parce que dans l'approche communicative, on est sur le langagier, et uniquement le langagier. Vous avez remarqué que dans le cadre, ils disent les actions ne sont pas seulement langagières. C'est aussi une prise de distance par rapport à l'approche communicative, qui est une approche d'interaction langagière, d'accord? À partir du moment où vous êtes sur l'interaction langagière et que vous voulez faire travailler la langue, bah forcément, c'est cette activité-là qui permet l'entraînement linguistique des élèves. Parce que la question que vous pourriez me poser, je devance un petit peu, c'est la stratégie du contre-feu. Vous allez me dire, mais c'est très bien, c'est joli ça, du 1 à 7 et puis de 9 à 11. Mais on fait travailler les élèves comment en langue étrangère? Parce que dans le 8, on leur donne les idées, on leur donne le matériel en langue étrangère et on leur demande de communiquer en langue étrangère. Si on leur demande par groupe de 5 de concevoir une mascotte et qu'on les lâche pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont peut-être pas parler en langue étrangère. Alors, c'est là que j'introduis la notion de convention. Vous vous rappelez que les deux nouvelles situations sociales de référence qui émergent dans le cadre, c'est le citoyen dans une société multilingue et multiculturelle et l'étudiant ou le professionnel travaillant en langue non maternelle en milieu professionnel, dans la longue durée. D'accord? Je vais prendre l'exemple au hasard. Mais vous allez voir que c'est pas au hasard, c'est mon cas. J'ai fait ça. J'ai fait en section LEA, langues étrangères appliquées à l'université de Bordeaux 3, où j'ai commencé ma carrière universitaire. J'ai fait un cours d'économie de l'Espagne en espagnol devant des étudiants français. Bon. Si vous réfléchissez à la situation, qui est une situation qui peut se multiplier, on peut remplacer le prof français par un prof espagnol, ça peut ne pas changer beaucoup les choses. Mais enfin, quand c'est un prof français, c'est encore plus évident. J'étais pas en train de faire comme si je faisais en espagnol un cours d'économie de l'Espagne. Je faisais effectivement un cours d'économie de l'Espagne en tant que français devant des étudiants français. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ben justement, on la comprend non pas par la notion de simulation, mais par la notion de convention, par la notion de contrat. on fait de l'économie espagnole, mais dans une formation de LEA, où il faut en même temps s'entraîner à l'espagnol. Donc vous aurez votre cours d'économie de l'Espagne en espagnol, même si le professeur qui vous le fait est un professeur natif français. Il vous le fera aussi en espagnol. C'est la règle du jeu. C'est le contrat. C'est le contrat. Et la notion de convention, comme je vous le disais tout à l'heure, est appelée à remplacer la situation de simulation. Encore une fois, la notion de convention va être à la perspective actionnelle ce que la simulation était à l'approche communicative. On ne fait pas comme si on fait un cours d'économie de l'Espagne en espagnol. On fait effectivement un cours d'économie de l'Espagne en espagnol en tant que français devant des étudiants français. Je vous ai pris un exemple de formation professionnelle à l'université. Alors, j'ai vécu aussi un certain nombre d'années en Amérique du Sud. Et ça m'est arrivé au bout de quelques temps de sortir du bureau. J'avais discuté travail pendant 2 heures. Je sors du bureau, je me dis, mais quel con, c'était un français, j'aurais pu le faire en français. Je ne savais même plus quelle langue je parlais. J'arrive dans le bureau et je parle boulot, ben je parle en espagnol, parce que je suis au Venezuela et que c'est ma langue de travail. Et je ne m'intéresse plus à savoir si c'est un français, un espagnol, un anglais ou un chinois en face. C'est une langue naturalisée. C'est une langue naturalisée. Je vais prendre l'exemple d'une ingénieure féminin, attention, hein, politiquement correct, une ingénieure française d'origine maghrébine, d'accord, donc langue maternelle arabe, mariée avec un français, et travaillant depuis 10 ans ou 15 ans dans une entreprise allemande en Allemagne, en anglais. Sa langue maternelle, on sait laquelle que c'est. C'est la langue arabe. Est-ce que le français, l'allemand, l'anglais, est-ce qu'on peut encore dire que ce sont des langues étrangères, alors que ce sont précisément les langues respectivement de son intégration familiale, sociale et professionnelle? Certainement pas. On n'est plus à l'époque où on parle français d'un côté du Rhin, on passe le pont et on parle allemand. C'est plus du tout la situation. La notion de langue étrangère renvoie aux frontières. Et donc à quelque chose qui n'existe plus tout à fait, en tout cas dans le cadre de plus en plus intégré européen. Prenons le cas de cet ingénieur de famille d'origine maghrébine, donc de langue maternelle arabe, reçu avec son mari français chez des amis allemands en présence d'un collègue irlandais, politiquement correct, anglais, donc de langue maternelle anglaise. Cette Française, devant les autres, elle va s'adresser à son mari, et son mari aussi, en allemand, si elle veut être polie, si elle veut respecter les conventions sociales. Elle va s'adresser en allemand, devant les autres, par convention, parce que c'est la règle sociale. D'accord ? Et vous noterez que, si vous avez bien retenu toutes les nationalités et les langues maternelles de tout le monde, là, autour de la table, que le concept de langue seconde, en fait, est un concept individualiste. Parce que dès qu'on est sur une réflexion collective de ce genre, quel est le statut de la langue qui est parlée, là, l'allemand, entre tous ces gens-là? Eh ben, il n'y a pas d'autre statut que langue conventionnelle. Et le concept de langue seconde vaut peut-être individuellement pour l'un ou pour l'autre, mais absolument pas pour la langue commune de travail. Voilà, alors je vais... Ah ben ça y est, c'est fini, c'est bien. Eh ben on s'arrête là. Merci.
Bien. Merci Christian Puren. Est-ce que vous avez des questions à poser donc avant la pause? D'accord.
D'habitude, je m'arrange toujours pour qu'on n'ait pas le temps de me poser des questions. Je me suis fait avoir cette fois-ci. Là.
Merci. Chantal Parpet, Université Lyon 2. J'ai quelques remarques et questions. Alors, la remarque, c'est que je suis... Pardon. Plus près, d'accord. Je me réconcilie un petit peu avec votre distinction entre approche communicative et approche actionnelle, que je trouvais un peu sévère pour l'approche communicative jusqu'à présent. Je pense qu'on a un peu déshabillé l'approche communicative pour pouvoir mettre en avant l'approche actionnelle. Ça me paraît moins vrai maintenant, donc je m'en réjouis. J'aurais encore une réserve, c'est vous faites le prototype de l'approche communicative, ce serait effectivement la chute d'informations et l'échange d'informations, ce qui est tout à fait vrai. Mais vous oubliez aussi qu'on a beaucoup développé dans l'approche communicative une autre forme d'échange qui est la négociation autour de la construction d'une nouvelle information. Et ça, c'était aussi dans l'approche communicative.
Montrez-moi des pages de manuel. Calculez-moi le nombre de pages de manuel qui sont consacrés à la négociation par rapport à la communication d'information.
Quantitativement, vous avez peut-être raison, mais dans le principe, c'est présent, je veux dire. Je suis d'accord qu'on peut à la fois, une méthodologie se juge par sa réalisation dans les manuels, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des principes dans les méthodologies, et le fait qu'ils soient mal mis en œuvre n'empêche pas quand même de considérer que c'est présent, que c'est potentiellement présent dans une démarche. Donc voilà, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais je pense que c'est important. En tout cas... Peut-être pas dans les manuels, mais je peux vous dire que dans les classes et dans les formations qu'on a beaucoup fait et dans ce qu'on pratiquait nous-mêmes, enfin bon, les gens qui croient à l'approche communicative, on a vraiment fait beaucoup d'activités de négociation. Voilà, c'était juste une...
Mais je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est important. Parce que de ma part, c'est un problème stratégique. Donc il y a déjà le fait de faire comprendre en peu de temps qu'est-ce qui a basculé récemment. Alors c'est vrai que du coup j'ai tendance à durcir les positions, ouais, et en particulier à prendre la version initiale de l'approche communicative par rapport à la version initiale de la perspective actionnelle. Donc là il y a un effet, si vous voulez, rhétorique évident. Et il y a aussi un effet stratégique parce que la question que je me pose en tant qu'historien de la didactique mais aussi acteur de la didactique des langues, c'est à quel moment on maintient le même concept qui s'est enrichi tellement qu'on ne voit plus très bien ce qui est en train de se passer de nouveau. Voilà. C'est exactement la même chose pour l'approche interculturelle. Vous avez remarqué que il y a plus rien de culturel, hein. Tout est interculturel. Tout est interculturel. On ne fait pas de colloque sur la culture, sur l'approche culturelle. On fait de l'approche interculturelle. Or, ce concept d'approche interculturelle, il s'est complexifié. Est venu se rajouter à l'interculturel initial, qui est à la gestion culturelle efficace d'une situation de rencontre ponctuelle avec enjeu d'échange d'informations la plus rapide et efficace possible. Par rapport à ça, initial, il y a eu plein de choses qui se sont rajoutées. Zarate, Abdallah Pretzel et même Porcher. Lorsque je parle de l'approche interculturelle comme ça au départ, ils disent « mais c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire ». Mais à quel moment est-ce que on abandonne un concept qui est devenu tellement englobant et qui a avalé tellement de nouveautés qu'il n'est plus pertinent pour voir ce qui est en train de se passer comme basculement. Voilà, mais c'est un problème stratégique ça. Excuse-moi, j'espère que...
Oui, non, mais je suis d'accord, mais je préfère la notion de filiation au tir à la carabine. Voilà, c'était plutôt ça aussi pour dire. Je pense qu'on a intérêt à garder les filiations et les liens entre les... Je préfère la notion d'évolution et de filiation.
Alors, moi, je suis plutôt favorable à ce que j'appelle l'épistémologie complexe. Pour gérer la complexité, il faut déjà simplifier. Et ce que permet la simplification, c'est justement, par exemple, votre discours... par rapport à l'approche communicative. Oui, mais l'approche communicative s'est complexifiée. Ah bon, comment? Mais on ne peut voir ce qui a été rajouté à l'approche communicative que par rapport à ce qui était au départ. Et puis, je pense que la notion de filiation, le discours que vous tenez, mais là je ne polémique pas encore, hein, c'est le discours qu'ont tenu les audiovisualistes pendant des années vis-à-vis de l'approche communicative. Les colloques de Mons, des scavistes. Quel a été le discours des scavistes pendant 15 ans ou 20 ans? Mais tout ce que fait l'approche communicative, c'est du sgavisme. Sous-entendu, c'était même pas la peine de créer le concept d'approche communicative. Il suffisait de continuer à développer le sgavisme. Est-ce que historiquement, on n'a pas eu quand même intérêt historiquement à dire non, ça n'est plus de la méthodologie audiovisuelle, c'est de l'approche communicative. Est-ce qu'on n'a pas eu raison?
Oui, bon. Sans doute, oui. Mais bon, peu importe, je vais m'arrêter là. Là, j'avais une question. Autant je suis effectivement tout à fait convaincue que de nouveaux environnements comme Internet créent une nécessité, effectivement, de gérer de l'information, d'analyser de l'information. Alors moi, ma question, c'est celle-ci, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup, ça rend très exigeant la fonction d'enseignant de langue, du coup. Ça fait aussi beaucoup basculer les compétences de l'enseignant. Et à ce moment-là, que devient la formation d'enseignant de langue dans cette perspective-là, où on rejoint une fonction de formation, cette fois des individus, et non plus une formation d'enseignement à la maîtrise de la langue. Et on rejoint presque une fonction d'enseignant de langue maternelle en lycée à ce moment-là. Et il nous faut, et où acquiert-on et que deviennent nos formations universitaires si l'enseignant de langue doit acquérir ce type de compétences? Encore une fois, je suis convaincue, mais il faut qu'on réfléchisse à ce moment-là à ce que deviennent nos formations d'enseignants.
Tout à fait. Bon, le contrat que j'avais, moi, je parlais de convention, le contrat n'était pas de parler des implications et des difficultés que pose ce que je vous ai dit là. C'est évident qu'en tant qu'enseignant, vous voyez tout de suite les difficultés. J'en ai parlé seulement d'une, qui est comment on fait traiter de l'information en amont et en aval de la communication, comment on la fait traiter en langue étrangère. Voilà. C'est déjà énorme comme enjeu. Et c'est vrai ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, qui est, ça demande encore un surcroît de compétences de l'enseignant si on continue à parler de compétences individuelles. Parce que de la même manière que l'approche communicative, comme je l'ai montré, elle dépend de l'idéologie individualiste, la formation professionnelle a été globalement, massivement conçue jusqu'à présent sur le mode individuel. Or, vous avez remarqué que sur Internet sont en train de se développer, par exemple, des sites, non pas seulement de partage d'informations ou de documents. Tiens, j'ai fait un truc dans ma classe, ça marche bien. Tiens, j'ai un document intéressant, je le mets sur le site. C'est pas un site de partage d'informations, c'est un site de collaboration. C'est-à-dire que ces sites-là se donnent, on va préparer une classe ensemble. On va préparer des trucs ensemble. Là, on est sur le collaboratif. Il faut penser la compétence de l'enseignant sur le mode collectif. C'est l'ensemble du corps des enseignants qui est compétent ou qui ne l'est pas. Dans un système scolaire, en tout cas, c'est évident. Bon. Et deuxième réponse à votre question, mais encore une fois, vous avez tout à fait raison, je vous remercie d'avoir pointé cette difficulté-là. Deuxième remarque, la pédagogie du projet, par définition, elle est interdisciplinaire. Et c'est évident que l'une des connexions qu'un enseignant de langue doit prendre maintenant prioritairement, faire un cadeau tous les premiers de l'an à la documentaliste. C'est une personne absolument essentielle. Il faut être bien avec son proviseur et avec sa documentaliste, ou son documentaliste. Parce que effectivement, c'est eux qui ont cette compétence technique de la gestion de l'information. Et lorsqu'on va envoyer nos élèves préparer, concevoir un projet, chercher l'information, il y a quelqu'un de compétent au lycée, là, pour ça. C'est la documentaliste. Il faut pas penser ce qu'on doit faire avec ses élèves, il faut pas le penser sur le mode individuel de ses propres compétences. Moi, je suis pas compétent pour le faire, je le fais pas. Attendez! On est une équipe éducative. Il y a des gens qui sont compétents, justement, sur la question de la gestion de l'information. C'est les spécialistes de la documentation. C'est avec eux qu'il faut travailler. Et éventuellement avec d'autres, si vous voulez. Hein. Mais je voulais pointer, là, ce concept de paradigme individualiste que l'on a vraiment dans la tête. Il faut penser la formation professionnelle, comme processus même. Et la formation professionnelle, ensuite, continuer de chacun dans sa classe, il faut la penser désormais sur le mode collectif. On est compétent dans, au sein d'une équipe éducative, on n'est pas compétent. Et vous avez vu que l'histoire de la didactique a été faite de gens qui, dans leur coin, se sont passionnés à un certain moment pour quelque chose et qui y ont consacré 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ont fini par abandonner et qui ne laissent absolument aucune trace derrière eux. Tout s'est perdu parce qu'il n'y a pas eu cette dimension, justement collective. Et dans la dimension collective, il faut mettre l'institution. Mais là, je ne voudrais pas terminer par un petit discours associatif. Mais vous devinez lequel.
Bien. D'autres questions? Bon. Je pense qu'on va donc pouvoir faire la petite pause, hein, et on reprend donc à midi. Merci encore, Christian Puren.